Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Valente, je suis consultant senior SharePoint chez Insantia, société suisse. Vous avez mon adresse ici, on a un stand aussi à l'intérieur du parc là-bas, donc vous pouvez nous retrouver sur le stand quand vous voulez. L'agenda de la session, d'abord une brève présentation de Insantia et ses métiers. Ensuite, qu'est-ce qu'une app? Donc certains ont peut-être vu une session précédente où on en parlait déjà. Les différents modes de hosting des apps. Ensuite, comment on peut présenter une app? Et ça sera le moment des démonstrations où on fera un peu de code. Et ensuite, une petite conclusion et on verra si on a du temps pour les questions ou si on se retrouve sur le poste Incentia dans le hall. Donc, Incentia en quelques mots. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être sous le nom de Pragmantic. En fait, on a deux sociétés dans le groupe Velti Group. Enfin, on en a beaucoup plus que ça, mais il y en a deux qui ont fusionné. Pragmantic et Peralion ont fusionné en Incentia. Donc, du coup, on se retrouve à 55 collaborateurs pour Incentia, 400 collaborateurs pour le groupe Velti Group. On est présent à Genève, Lausanne, Berne et Zurich. On est Gold Partner sur la partie SharePoint et SQL. On est Silver dans d'autres parties. On a plusieurs briques chez Incentia. D'abord, on a les collaboratives solutions, l'entreprise Content Management et le Social Business Service. Ces trois briques ont une forte connotation SharePoint. On a 20 consultants SharePoint chez Incentia. Ensuite, on a la partie Data Management et Business Intelligence, où là, on a une forte connotation SQL Server. Et en fait, durant ces Tech Days, entre la partie SharePoint et la partie SQL Server, on a trois sessions en tant que speaker. À côté de ça, on a une autre brique qui est la Business Solution, qui là porte sur les outils Dynamics, Nav et CRM. Donc du coup, on peut prendre en charge vos projets du début à la fin, de la construction de la base de données jusqu'à la livraison d'applications dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qu'une app? Donc aujourd'hui, on a pas mal de market en place, que ce soit Microsoft, Apple, Android, etc. L'idée générale, c'est d'avoir des magasins comme ça en ligne sur lesquels on va pouvoir venir chercher une application. Alors ça peut être un jeu, ça peut être une fonctionnalité, ça peut être quelque chose qui étend notre appareil, notre device. Et en fait, on va trouver la même chose côté SharePoint. On va avoir des applications ou des outils qui vont venir étendre les fonctionnalités de SharePoint. L'idée de ces apps, qu'elles soient dans un market SharePoint Store ou des applications en général, c'est qu'elles doivent être autonomes. Elles ne doivent pas être dépendantes d'autres applications déjà installées. Elles vont étendre les fonctionnalités de SharePoint. Elles vont apporter un plus. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on les installe. Donc, pas de dépendance sur les logiciels, les périphériques et la plateforme. On veut aussi une installation et une désinstallation facile par les utilisateurs finaux. Pas besoin de demander à l'administrateur pour des fioritures. En fait, quand on va avoir une grosse application qui touche pas mal de monde dans notre société, mais on va mettre en place des droits qui feront que on va demander à l'administrateur de l'installer ou on va demander à l'administrateur de la désinstaller. Mais si c'est juste pour test ou sur une plateforme de test, on va faire ça comme vous le feriez avec votre téléphone. On a pas mal d'améliorations avec tout ça. Donc, on a un développement selon les standards du web. Il faut savoir qu'en SharePoint 2010, le développeur SharePoint était un développeur .NET avec une spécialité SharePoint. Microsoft a un peu changé son fusil d'épaule. Là, on va se retrouver avec du HTML JavaScript. On va toujours avoir un peu d'ASPX, mais la nouveauté, c'est l'HTML JavaScript, où jusque-là, on le faisait de façon vraiment quand on était obligé, quoi. on va avoir de l'eau haute. C'est un protocole qui permet de publier, d'interagir avec des données protégées. On va avoir du REST. Le REST, en fait, ça va nous permettre une communication entre machines. Entre machines ou entre domaines, je dirais. Puisqu'en fait, quand on fait une app, elle est hébergée dans un domaine à part du domaine SharePoint. Les deux sont liés, mais c'est deux domaines à part. D'accord? Donc le REST va nous permettre de communiquer entre notre app qui est côté client et notre serveur SharePoint qui est côté serveur. D'accord? On le verra dans une démonstration tout à l'heure. Ensuite, on a le OData. Le OData, c'est un protocole qui va nous permettre de partager des données entre notre serveur et notre application client, notre app. Les inconvénients, ben voilà, il y a pas mal de technologies. Il faut les apprendre. Elles sont toutes intéressantes. Elles apportent toutes un plus. Maintenant, quand on veut faire quelque chose, on était habitué à le faire d'une certaine façon avec du .NET. Maintenant, il faut s'habituer à utiliser ces nouveaux langages, enfin, c'est pas des nouveaux langages, à utiliser ces langages pour pouvoir faire quelque chose du côté client. D'accord? Les outils qui sont mis à notre disposition, Visual Studio. Donc, je pense que dans une session précédente, vous avez vu les nouveautés Visual Studio. Entre autres, une nouvelle interface de développement très riche. Beaucoup de nouveautés. Si on se concentre juste sur ce qui nous intéresse là, c'est les apps. On va noter l'IntelliSense et le code couleur JavaScript qui vont nous permettre, pour des développeurs novices ou expérimentés, de décoder assez rapidement des apps. On a le SharePoint Designer. En fait, nos apps, comme c'est une partie client et qu'on veut plaire à nos clients, il faut qu'elles aient un look assez sympa. Aujourd'hui, je vous rassure, ça ne sera pas le cas puisque le designer était en vacances. Donc, c'est un développeur qui a fait les interfaces et je pense que vous comprendrez de suite ce que ça donne. Parmi les nouveautés du SharePoint Designer, rapidement, on fait des appels à des services web, chose qu'on ne faisait pas en 2010. Il y a des nouvelles actions qui sont intégrées à SharePoint Designer et des nouveaux blocs de construction. On peut faire des étapes et des boucles. Les boucles, il faut savoir que jusque-là, ça s'appelait de la bidouille en termes techniques. Napa, un nouvel outil de développement en ligne. Alors, il est fourni avec Office 365 ou sur votre SharePoint serveur quand vous faites un site de type developer site. Vous connaissez tous le site de type team site ou site d'équipe. En fait, on a un site de type développement dans lequel Napa est intégré. On verra Napa aussi tout à l'heure. Les différents modes de hosting. Alors, avant de parler de ça, je vous montre juste l'architecture que j'ai sur ma VM. Dans ma centrale administration, qui n'a pas trop changé par rapport à 2010, ici, je vais voir toutes les sites collection. En fait, à la racine, ici, j'ai ma collection de sites de production ou de test. D'accord? J'ai les MySites. Ici, j'ai une collection de sites spécialisés dans le développement. Je l'ai appelé DevSite parce que c'était une collection de sites de type developer site. Et ici, j'ai une autre collection de sites qui est mon catalogue. En fait, le catalogue, c'est là où je vais référencer les apps que je veux installer dans mon administration centrale pour pouvoir les proposer à toutes les pages et toutes tous les sites de mes collections de sites dans ma ferme. D'accord? Je suis administrateur central, c'est moi qui télécharge l'app, c'est moi qui l'installe, et après je la mets à disposition des autres. D'accord? Ici, gage de sécurité. Donc, si je vais sur mon développeur site, attention les yeux, c'est orange. Donc, je me retrouve avec... Donc ici, je suis sur mon serveur. Hein. Je vous le montre bien, pardon, mauvaise manip. Hop. Ici, vous voyez, win, blablabla, c'est mon serveur. Donc, dans mon développeur site, je peux aller chercher les outils pour développer. Vous voyez, je l'installe gratuitement, install free. Je peux publier sur l'Office Store ou je peux aller sur les sites MSDN pour apprendre à développer des sites pour SharePoint 2013. Ici, je me retrouve avec mes liens rapides, mon Quick Launch, avec mes bibliothèques de documents, etc. Donc, je peux déjà déployer des listes, des bibliothèques et tester mes apps au fil de l'eau dans mon développeur site. Si maintenant je vais dans Office 365 et que je viens ici dans Build App, je vais me retrouver dans un développeur site qui est l'équivalent, voyez, exactement les mêmes actions possibles, exactement la même structure ici. Et en fait, je vais pouvoir, depuis Office 365, commencer à développer avec Napa, comme je le ferai sur mon site en local. D'accord? Donc, vous pouvez, si vous avez un Office 365 Microsoft en mettant à disposition pendant un certain temps de façon gratuite, c'est le cas ici, ou alors vous faites une collection de sites de type développeur site. OK? Et puis Tertio, hop, ici c'est mon site de test ou de prod, là où j'ai fait un simili, une simili application de ticketing. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est pour vous positionner les choses. Parce que dans le hosting, on va revenir là-dessus sur ces trois points. OK. Deux grandes familles au niveau du hosting. Le hosting, c'est là où je vais déployer mon app. D'accord? Je la déploie dans le cloud. Là, deux options, soit le provider host, soit un auto-hosted. Ou je la déploie sur mon SharePoint de test, de validation ou de prod directement si je suis un peu fou. Et ça sera du SharePoint hosted. D'accord? Dans le cloud hosted et le provider hosted. Là, c'est un peu particulier. On va avoir des composants SharePoint qu'on va appeler directement, qu'on va installer directement sur le serveur local ou sur votre serveur online. Je parle ici de listes, de librairies que j'ai fait par programmation. Et les composants non SharePoint, c'est-à-dire mes pages HTML, mon JavaScript, etc., vont être déployés sur mon site de développement dans ma ferme SharePoint ou dans le cloud. D'accord? Je choisis. Ça, c'est le mode provider hosted. Le mot exoscale, en fait, c'est une petite pub pour Veltigroup. On propose du hosting SharePoint dans le cloud en Suisse, avec des data centers en Suisse. Donc, en fait, vous pouvez venir nous voir sur le stand Incentia ou aller sur le site de Veltigroup. Et en fait, on propose des solutions cloud pour héberger vos serveurs SharePoint ou autres dans le cloud. Fin de la pub. La partie auto-hosted, ben en fait, tout simplement, j'ai mon SharePoint Online, je veux avoir que ça, pas besoin de mettre un serveur dans mon entreprise, de le maintenir, d'avoir des coûts énormes, je veux tout dans le cloud, très bien. Je vais faire des développements d'apps de type auto-hosted et tout hébergé dans le cloud. OK. La dernière, la plus simple, celle qui correspond le plus à ce qu'on avait avant en 2010, c'est la SharePoint Hosted. Avant, on faisait des développements de type Farm Solution ou Sandbox, on les déployait sur notre serveur de test, puis quand c'était bon, on les déployait sur notre serveur de prod. En fait, c'est exactement le même schéma ici, mais avec des apps. OK? Voilà, sans problème. Du coup, comment on choisit? Alors en fait, il faut savoir que le choix est très important et arrive très en amont du développement. C'est-à-dire que vous faites nouveau projet de type App SharePoint, il vous pose deux questions, le nom du serveur et le type d'hébergement que vous voulez. D'accord? Avant toute chose. Donc, le choix est à faire en amont. Je suis dans le provider hosted. Donc là, je développe dans mon environnement local jusqu'à validation. Et du coup, je vais déployer sur mon serveur DevSite ou dans Office 365. Je teste, je valide, etc. Tout va bien. Je vais publier mon app. Donc quand je publie mon app, en fait, il me génère un fichier, le nom de mon app.app, tout simplement. Et c'est un fichier transportable. D'accord? Donc je peux le déployer sur mon serveur de production ou chez mon client. OK? La partie auto-hosted, je vais développer mon app dans Napa et ou dans Visual Studio jusqu'à validation. Il faut savoir que Napa, c'est un outil gratuit, donc il a beaucoup moins de fonctionnalités que Visual Studio. D'accord ? On peut ajouter moins de composants dans notre code. Ou alors, il faut tout vraiment faire par code. Donc là, l'idée, c'est je peux commencer avec Napa pour faire une mise en bouche. Après, je vais attraper le code de Napa, l'ouvrir dans Visual Studio. On le verra tout à l'heure. À partir de là, je continue à développer. Mais quand je développe, l'URL du site sur lequel ça va jouer quand je vais faire Start, ça va être l'URL de mon SharePoint Online, de mon Office 365 ou autre. D'accord ? Donc du coup, quand tout est validé, ben, je déploie sur mon app sur mon SharePoint Online, qu'il soit Azure ou Exoscale ou autre. Troisième partie, je fais du SharePoint Hosted. Donc, je peux toujours développer avec Napa depuis Azure, peu importe, c'est mon serveur de développement ou de test. Donc, je peux très bien prendre celui-là pour commencer mon développement avant de le valider. Je peux aussi utiliser Visual Studio et puis je me fais une collection de sites de développement. Et quand j'ai fini de valider, je vais le valider sur mon serveur on-premise. Donc soit mon serveur de validation, soit un serveur qui sera dédié au test. Je publie mon app ou, ben, comme je l'ai validé, je la redéploie directement sur mon serveur de prod, mais auquel cas, je n'ai pas le fichier de déploiement. Donc le jour où mon serveur y crash, il faut que je retrouve les sources, que je les recompile, que je redéploie. Donc autant faire une publication pour avoir le fichier compilé et le garder, le stocker quelque part. OK ? Donc je vais déployer mon app directement sur mon serveur de production, ou toujours pareil, chez mon client. La dernière partie, j'en parle rapidement parce que, comme l'a dit Ronnie ce matin, une demi-heure pour enregistrer le nom, une demi-heure pour publier. On n'a pas le temps aujourd'hui, donc j'en parle juste brièvement. C'est la mise dans le SharePoint Store. Il l'a fait ce matin avec une application Windows 8. C'est exactement le même schéma avec une application SharePoint, une app SharePoint. Donc je développe mon app dans Napa ou dans Visual Studio jusqu'à validation. Je vais déployer mon app de solution ou dans mon SharePoint Online ou sur mon site de développement. Parce qu'en fait, il n'y a que ces deux types de sites qui permettent de publier l'app dans le SharePoint Store. Avec une SharePoint Hosted de base, il vous le proposera jamais. D'accord ? Je demande la publication de mon app dans le SharePoint Store. Elle est validée, il y a un échange avec Microsoft, il manque un bout de code, elle plante, que sais-je. Voilà, jusque à la validation et à la mise en production. OK. Maintenant, les pages, les apps, pardon, ça se présente comment ? Trois types. Full page, donc ça, c'est l'affichage par défaut. Chaque fois que vous faites une app, vous faites nouvelle app, vous mettez zéro ligne de code, vous faites start, elle va s'afficher pleine page. D'accord ? Elle va s'afficher pleine page, mais avec une URL spécifique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont dans un domaine DNS différent de celui de votre SharePoint. Donc, elle s'affiche. Souvent, cette page-là, c'est la page descriptive de notre app. Pour se servir de l'app, cliquez ici, sélectionnez cela, et vous aurez le résultat dans tel ordre ou que sais-je. D'accord ? En principe, c'est une page explicative. Le contenu, c'est de l'HTML et ou de l'ASPX. On peut avoir le mélange des deux. Il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est pour la partie full page. On le verra. La partie part, donc on dit une app part, d'accord ? C'est similaire à une web part. En fait, on va l'intégrer à ce qu'on est appelé avant une web part zone dans notre page. Et en fait, elle va venir s'intégrer quand on est dans SharePoint, on a le choix entre des web parts ou des app parts, d'accord ? On choisit ce qu'on veut mettre dedans. C'est le même fonctionnement. Le comportement app part est standard pour les listes et les bibliothèques. Puisqu'en fait, on peut très bien mettre deux listes, la liste des clients et la liste des tickets ouverts par client. Et du coup, on va les connecter entre elles. Et en fait, par client, on verra que les listes de ce client-là. Sachant que les listes et les bibliothèques sont des apps, puisque le slogan c'est dans SharePoint 2013 tout est app, les listes et les bibliothèques sont des apps, et donc les connexions entre apps est possible. D'accord? Dernier type, une custom action. Deux possibilités de présenter une custom action. Possibilité 1, je la mets dans le ruban de mon SharePoint, dans le ruban style Office. Je vais avoir un bouton et en fait, en fonction de la page sur laquelle je suis, en fonction des éléments sélectionnés dans la page, j'aurai programmé quelque chose pour que quand je clique sur le bouton, une action se passe. Deuxième façon de faire, c'est du type un peu combo box, c'est-à-dire que pour chaque item, maintenant dans SharePoint, on a trois petits points à côté de l'item, et quand on clique sur ces trois petits points, on a une boîte déroulante qui s'ouvre. Et l'idée, c'est de venir rajouter des fonctionnalités, d'étendre SharePoint à ce niveau-là, et de rajouter un élément qui fait que j'ai une action supplémentaire sur un item, d'une liste ou d'une librairie. C'est ce qu'on va voir. Donc, on passe à la partie démo. D'abord, la démo d'une custom action. Donc, on va se la faire en deux parties. Je vais vous montrer la structure et après, le code, on passera sur une autre, la même chose, mais avec le code déjà prêt pour pas qu'il y ait de bidouille de fait. Ok, je fais un nouveau projet. Donc ici, je suis dans la partie Office SharePoint. Tout le monde y voit bien? Je grossis? C'est bon? Ok. Au niveau des apps, je vais prendre une app SharePoint. Donc, je vais l'appeler, si je veux avoir la même chose, détail demande. Ok. Et voyez, la première question qui vous pose, c'est, ok, j'ai compris le nom. Quel est le serveur sur lequel tu veux que je fasse les tests quand tu vas faire F5? Et la troisième question, quel est le type d'hébergement que tu veux? Auto-hosted, provider hosted, SharePoint hosted. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que le choix se fait en amont. Aujourd'hui, on va faire un SharePoint hosted. Ok. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ici, le contenu CSS. Je vais tout ouvrir et grossir. D'accord? Ok, donc ici j'ai du CSS, ici j'ai l'icône qui va être présentée dans mon SharePoint en disant voilà l'app qui est proposée, voici son icône. La page par défaut, c'est la page qui va être de type full page et qui va décrire ce que fait mon app. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, des références JavaScript et le fichier qui va bien, c'est le app.js qui va contenir la logique de mon app au départ. Mon manifeste, c'est quels sont les droits que je veux attribuer. Est-ce que je veux que mon app puisse écrire dans mon site, qu'elle puisse lire, qu'elle puisse manager carrément mon site, pouvoir créer, supprimer des librairies, etc. Ok, je n'ai absolument rien fait, vous êtes d'accord, j'ai fait juste nouveau. Je fais start. Ok, mon app vient d'apparaître ici. Je clique dessus. Et je vous. Alors déjà, voilà, elle fait un hello la personne qui est connectée. Hello World classique. Et regardez bien l'URL en fait. Ici, j'ai app. Ensuite, j'ai un GUID. Et puis ici, j'ai un Essential Lab, blablabla, blablabla. Ça, c'est mon domaine que j'ai créé. Pour les apps. Je vais fermer ça. Je viens vous montrer ça dans ici application app. Ça c'est la nouveauté de la centrale admin. On a un nouveau truc qui est app. Et ici, on a un configure app URL. Mais en fait, voilà. J'ai configuré le fait que le domaine, c'est incentiaapps.lab.sp2013 local. Et le préfixe de chaque app, c'est app. Et du coup, ici, il me dit, ben, à chaque fois que tu feras une app, on lui mettra comme préfixe app. Après, il y aura un ID qui sera généré lors du déploiement, automatiquement. Donc là, on avait un numéro avec des lettres. Et puis ici, on mettra le domaine. Du coup, on est séparé de notre serveur SharePoint. On n'est plus dans le même domaine, d'accord ? Donc, au niveau communication, il va falloir mettre des choses en place pour partir de notre app et aller atteindre notre serveur SharePoint et surtout les données qui sont dedans. OK ? Et c'est ça qui est pas très simple dans le développement au départ, puisque il faut toujours être dans le contexte. Je suis sur le client, je suis sur le serveur, je suis où entre les deux ? Comment on communique ? Qu'est-ce qu'on échange ? Donc, pour faire tout ça, je vais rajouter déjà ce que je veux faire. On a dit qu'on voulait une custom action. Donc je fais mon projet add new item, et puis voici ce qu'il me propose. Donc des choses intéressantes, si vous voulez les tester chez vous, c'est la liste, les content type et les side colonnes. En fait, un content type, c'est constitué de X side colonnes. Et une liste peut être constituée de colonnes standard, de side colonnes ou de content type qui contiennent des side colonnes. Et pour les développeurs, c'était la croix et la bannière avant, parce qu'il fallait tout coder ligne par ligne à la main et à plusieurs endroits. D'accord ? Aujourd'hui, alors pour les apps, c'est pas encore optimisé. Là, il faut savoir que c'est la version preview que j'ai. C'est pas la version RTM, parce qu'on a préparé les tech days bien avant. Mais pour un développement SharePoint standard, créer une liste, ça se fait de façon graphique. Les content types, ça se fait de façon graphique. D'accord ? On peut associer des side colonnes de façon graphique aussi. Ça, c'est un énorme avantage pour les développeurs, parce qu'avant, c'était pas du tout évident, et avec de gros soucis au niveau des ID et de la mise à jour. Ici, un event receiver. Oui, mais un remote event receiver. Attention, je suis dans le contexte d'une app. Donc, pour attraper les événements SharePoint, je ne suis pas sur mon serveur SharePoint. Je suis dans mon domaine app. Donc, l'event receiver, il est distant pour attraper les événements. Un élément vide, un workflow, un module, tout ça, c'est classique. Une client webpart, on verra ça depuis Napa tout à l'heure, qui en fournit une par défaut. En fait, c'est juste une webpart, mais côté client, encore une fois. Une custom action, c'est ce qu'on veut faire. Les deux derniers, j'en parle pas trop parce que c'est des apps, mais pour Office, pas pour SharePoint. Donc, une custom action qu'on va appeler détail demande action. J'espère que mon accent ne vous dérange pas trop. Donc, on a fait une custom action et bon, déjà il nous met un ID kilométrique. Ici, chose importante, la registration ID, c'est 100 pour les listes, 101 pour les bibliothèques. Donc, chose à savoir. Hein, si on veut que notre app ne s'applique qu'aux listes, on laisse 100. Si on veut qu'elle s'applique qu'aux bibliothèques, on met 101. OK ? Ici, on va mettre le titre qui sera proposé dans la boîte déroulante. Donc, détail de la demande. OK. Et par défaut, quand je vais cliquer, elle va appeler ma page default.spx et lui passer des standard tokens. Qu'est-ce qu'il y a dans les standard tokens ? Il y a l'URL de l'app et l'URL du host, le host serveur SharePoint. D'accord ? OK. Maintenant, pour faire un peu plus sympa, on va ajouter un nouveau projet à la solution. Un projet qui va être un projet ASP.NET vide. Et qu'on va appeler détail web. Ce projet, si je fais un zoom pour que tout le monde y voit, voilà. Ici, il a une URL qui est encore spéciale. L'idée du truc, on est au tech days quand même, on va pas faire ça à la papa. On va avoir notre serveur SharePoint. Dans notre serveur SharePoint, on va avoir une app qui va être dans un domaine différent. Et on va avoir un projet HTML qui va avoir une URL dans notre 2IS. Alors, Visual Studio fournit 2IS Express en Visual Studio 2012, donc il va être hébergé automatiquement dans notre 2IS Express. Du coup, on va partir de notre serveur SharePoint, passer par l'app, donc différents domaines, et aller dans notre 2IS, encore un autre domaine. D'accord? Deux cross-domaines. OK. Très bien. Dans notre projet, il faut qu'on affiche deux, trois choses quand même. Donc, pour afficher, on va ajouter une page HTML. Donc, ça va être la page détail demande. J'ai oublié ça. Et puis, pour afficher du contenu dans ma page, j'ai besoin d'un peu de JavaScript. Donc, qui va être le script détail demande. OK. OK. Donc, je vous fais un résumé et puis je passe à la solution qui contient déjà le code. J'ouvre mon serveur SharePoint. J'ai déployé une app qui contient une custom action basée sur les listes. D'accord ? Donc l'idée, si je viens dans mon site, c'est que je vais me mettre dans une liste, ici. J'ai les trois petits points et j'ai ici une boîte déroulante. Je veux ajouter un item ici. Cet item, c'est mon app. Quand je clique dessus, il va chercher le titre et la description. Il l'envoie à mon projet web vide. Et ma page HTML reçoit le titre et la description et l'affiche. D'accord ? Ici, petite chose, on vous a préparé juste des listes, donc demande en attente, demande en cours, ticket en attente, ticket en cours, et ici, des tickets par opérateur. Vous voyez ici, les tickets en cours, la liste que j'ai là, elle est connectée à une autre liste qui est l'opérateur en charge, et vous voyez bien que ici, on est connecté et ça change. D'accord ? OK ? Donc la connexion entre app est possible, puisque les listes sont des apps. OK. Allez, on est reparti. Voilà, je me retrouve exactement dans la même configuration. Si vous vous souvenez, en fait, j'avais mon URL action qui correspondait à ça tout à l'heure. Donc, il appelait la page default ASPX, il lui passait que les standard tokens. Là, je l'ai modifié. En fait, je lui dis, au lieu d'appeler la page home.spx, tu vas appeler la page detaildemande.html, celle que je viens de créer dans mon projet web vide. Tu vas lui passer les standard tokens. Très bien. Donc là, j'ai l'URL de l'app, l'URL de mon host. Mais en plus, ce que j'aimerais bien, c'est que tu lui passes l'ID de la liste sur laquelle j'ai fait l'action, parce que je déploie une app pour les listes, oui, mais toutes les listes, pas une liste. Donc il faut que je sache sur laquelle j'ai cliqué. Et après, tu vas lui passer l'item ID sur lequel je viens de cliquer. En fait, j'ai cliqué sur les trois petits points pour avoir la boîte déroulante. Donc, quel est l'item ID de l'item sur lequel j'ai cliqué? OK, très bien. Je me trouve dans mon fichier HTML. Dans mon fichier HTML, je fais juste un titre de la page et ici deux labels qui vont recevoir le titre et la description de l'item sur lequel j'ai cliqué. Un troisième bloc ici qui va être juste un lien href qui va me permettre de faire une seconde action, c'est-à-dire que j'affiche mes données une première fois, je clique sur mon lien href, il va me refaire une requête jusqu'au serveur depuis cette fois-ci le contexte localhost de point mon port jusqu'au serveur SharePoint pour aller me chercher le détail, le titre encore une fois et me le ramener. OK? Ça, c'est la partie j'affiche. OK. Pour faire du code, j'appelle deux librairies, jQuery et puis Ajax. Et puis, je lui dis, bon, mais le code, il est dans script détail demande, le fichier JavaScript que j'ai créé en même temps que ma page HTML tout à l'heure. D'accord? Donc, celui qui est là. Et c'est là que ça commence à devenir bien sympa. Donc, comme tout speaker, on met des variables globales. Faut pas faire ça dans la vraie vie, on est bien d'accord. Et on va appeler la fonction qui est appelée de base quand on appelle un fichier JavaScript, c'est la fonction ready. Cette fonction ready, elle va, dans un premier temps, venir me décortiquer l'URL que j'ai en paramètre. D'accord? Parce que je suis dans mon custom action, j'ai fait voir le détail de la demande, je lui ai passé le standard token, le list ID et l'item ID. Donc ça me constitue une URL assez longue, et il faut qu'il vienne parser l'URL pour récupérer ces petits. Donc, pour ça, j'ai une petite méthode ici qui va venir juste splitter l'URL entre les points d'interrogation, les commerciales, etc. Bref, il me fait une petite cuisine, et ici, il va me retrouver l'URL de mon app, l'URL de mon host, donc ça c'est dans le standard token au départ, le list ID que j'ai nommé list quand j'ai cliqué, enfin quand j'ai paramétré mon détail custom action, et mon item ID que j'ai paramétré de la même façon. D'accord? Donc là je me retrouve avec quatre variables qui contiennent tout ce dont j'ai besoin. À partir de là, je vais aller chercher les ressources de script dans mon serveur SharePoint et dans le répertoire 15. SharePoint 2010, répertoire 14, SharePoint 2007, répertoire 12, SharePoint 2013, répertoire 15. D'accord? Donc je passe par mon serveur SharePoint, je vais chercher mes scripts qui vont bien. Une fois que j'ai ça, ben je vais aller chercher un script en particulier qui est dans le répertoire 15, d'accord? Mon script base, c'est mon répertoire 15, et je vais aller chercher un script SharePoint qui s'appelle requestexecutor.js. Ok, très bien, c'est un script qui va me permettre d'appeler des méthodes qui vont ici me permettre d'aller chercher les data dont j'ai besoin. D'accord? Et pour aller chercher les data dont j'ai besoin, je fais un get metadata. Ok, celle-là on n'en parle plus. Dans le get metadata, c'est là où on rigole. Donc, je vous fais un petit résumé. Qui a fait du WCF? Bien, WCF, trois lettres à retenir, A, B, C. Adresse, binding, contract. D'accord? Adresse, qui communique avec qui? Binding, par quel tuyau je communique, et contract, comment je formate les données qui sont dedans. D'accord? Exactement pareil ici. Ici, je vais me mettre dans le contexte de l'app. Donc, qui communique avec qui? Déjà, je sais que d'un côté, j'ai mon app. Deuxièmement, je vais créer un endpoint. Ceux qui ont fait du WCF ont dû l'exécuter aussi, ça. Et mon endpoint, en fait, ça va être du REST. C'est lui qui va s'occuper de mettre en place le tuyau pour communiquer. Donc, en fait, mon endpoint, je lui dis, OK, je suis dans mon API, je vais aller chercher un JavaScript qui est sp.appContextSite, et je vais lui donner une cible. La cible, si vous regardez au bout, elle est égale à host web URL, c'est-à-dire mon serveur SharePoint. Donc déjà, j'ai le deuxième interlocuteur. OK? Ensuite, je lui dis, OK, très bien, quand tu es dans le host, tu vas aller dans le web, donc dans le site, tu vas aller dans la collection de listes, mais parmi la collection de listes, je ne veux que la liste qui porte l'ID que je te passe en paramètre. Et dans cette liste que je te passe en paramètre, je veux l'item qui porte l'ID que je te passe aussi en paramètre. Donc là, je suis descendu au niveau serveur, web, list, item. OK. Quand tu es positionné sur cet item, je veux ici que tu me fasses un select title et description. OK? Je veux ces deux champs. Et là, on est dans du haut data. D'accord? Ici, on a, pour communiquer avec le host, on met en place le tuyau REST. On utilise l'opérateur app context site et on passe de l'eau data dedans. Et la réponse, ici, on lui dira plus bas, qu'on accepte la réponse au format JSON. Donc, interlocuteur 1, app URL. Mon tuyau, c'est mon endpoint. Qu'est-ce qui passe dedans? En fait, je lui dis, voici ma requête. Et comme j'utilise ça, je sais que c'est de l'eau data. Ma requête, je vais l'exécuter de façon asynchrone en lui disant, au niveau URL, on part de mon app, on passe par le tuyau. Dans le tuyau, tu trouveras le destinataire et ce que je lui demande. La méthode, c'est du get, donc du select, de la lecture. Si je devais écrire, ça serait du post. Dans l'entête de mon message, je lui dis que j'accepte du JSON et qu'en retour, il peut m'envoyer du haut data et de façon verbeuse, c'est-à-dire envoie-moi tout ce que tu as. OK? Comme c'est de la synchrone, j'ai un cas de succès et un cas d'erreur. Donc, en cas de succès, je récupère les datas qui me sont renvoyées par ma requête. En fait, je vais avoir dans les datas l'entête, le corps du message et puis X paramètres à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps du message. Donc, ce corps de message, je le parse en JSON. Et en fait, il y a un gros avantage une fois parsé en JSON, c'est que ici, dans mon objet JSON que je récupère, je lui dis, moi, je veux m'occuper des datas. Et quand je vais faire le point, je vous parlais de l'IntelliSense qui est fourni. Voilà, il me propose description, il me propose title, d'accord, etc., etc. Donc en fait, à partir de là, c'est de l'objet, d'accord, client object model. Là, je peux jouer avec le retour. Donc tout simplement, là, je l'ai décomposé en mettant le title et la description dans deux variables. Ces deux variables, je les assigne à mes deux labels et ça s'affiche. Vous avez compris la chanson. OK. Au niveau erreur, si j'ai une erreur, ben je vais mettre le message d'erreur plus l'erreur message dans le titre, à la place du titre normal. OK. On avait aussi un lien href. Et on a dit, ben quand on clique dessus, on veut re-requêter pour avoir le titre et l'afficher. Mais là, on est dans le contexte localhost 2.import. D'accord ? On n'est même plus dans l'app. Mais en fait, tout simplement, ça va marcher pareil. Puisqu'on lui dit, au lieu de te partir du localhost, mais tu vas le mettre dans le contexte de l'app URL que j'ai gardé. D'accord ? Donc je repars du contexte de l'app URL. Et du coup, ici, je vais faire exactement la même requête, mais ici, je veux juste le retour du title, pas le title plus la description. Même méthode ici que tout à l'heure quand je vous l'ai expliqué. Et au retour ici, je vais rendre un élément qui était invisible, je vais le rendre visible, pardon, c'est juste là. Et puis je vais aller chercher le body et retourner le title. D'accord ? Allez, on se le teste. OK, détail demande, OK, je l'autorise. Si déjà, je vais voir le contenu, j'ai zappé une étape en fait, c'est pas grave, j'ai modifié un peu le... C'est pas ça, c'est pas ça, elle est passée où? Elle est là. J'ai modifié un peu l'affichage de la description de mon app. Donc instruction, on va prendre un item de liste correspondant à une demande, on va cliquer sur les trois points, et si vous désirez prendre en charge la demande, vous cliquez sur le lien prendre en charge. D'accord? Bon. Comme on dit chez moi, ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Donc ici, je vais sur mes demandes en attente. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait View Item, Edit Item. Mais là, je vais cliquer sur les trois petits points. J'ai détail de la demande qui vient se positionner en plus. D'accord? Donc là, je suis sur lenteur et il y a des lenteurs sur l'application. Je demande le détail. Donc là, il y a un petit bug, mais l'owner est sauf. Vous voyez que c'est du dynamique. C'est du auto-généré par Visual Studio. Donc j'imagine que ça sera résolu dans la prochaine version ou prochain service pack. Je fais juste continue. Et voilà, je me retrouve donc dans mon localhost avec mon titre, le titre de l'item et la description. D'accord ? Maintenant, je suis dans mon localhost et je clique sur détail de la demande. Donc vous vous souvenez, on va repartir dans le contexte de l'app, aller dans le host SharePoint et ramener ça dans le localhost. Vous comprenez aussi pourquoi j'avais dit que le designer était en vacances. Voilà, donc là je viens de cliquer et il me retourne le titre. D'accord? Ok, ça c'est bon. Je reviens sur mes slides pour positionner tout ça. Donc dans cette démonstration, on a vu une SharePoint Store qui était donc hébergée en partie dans 2IS. Des éléments, on est allé les chercher dans le SharePoint 2013. À travers un web service et via le REST, le OData, on est passé dans du 2IS Express avec de l'ASP ou du HTML. Tout ça sous Active Directory et contrôleur de domaine. On a vu du HTML JavaScript. On a vu du REST, on a vu du OData, on a vu une immersive full page, on a vu notre custom action. D'accord? Allez, on se fait une petite démonstration NAPA. Donc, hop, je fais juste un peu le ménage. Ok, ici j'en ai besoin. Voilà. Donc je suis dans, hop, dans Office 365. Je vais lui dire, ok, je vais dans le contenu du site. Et puis je vais aller dans NAPA. Là, on est dans le cloud, oui. Ok. Je vais appeler mon app TechDays pour faire simple. Je la crée. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai ma page default. C'est la page qui va être... Ici, je rajoute un paragraphe. Description de notre app. D'accord? C'est là où on va dire, vous cliquez, vous sélectionnez, patin couffin. Ok. Quand je disais qu'on peut avoir du HTML, du ASP ou un mélange des deux, typiquement, on y est là. Ici, ASP, ici, c'est HTML. D'accord? Très bien. Ici, je vous ai dit aussi dans Visual Studio qu'il y avait une client WebPart, qu'on verrait ça tout à l'heure. Je ne vous ai pas menti, la voilà. Et ici, quelque chose de très sympa, qui est discret, mais qui a son importance, c'est ici. WebPart Page Hello Framing. C'est juste cette petite ligne qui permet à notre app d'être une app part. D'accord? C'est juste ça. OK. Donc il vous suffit de rajouter ça et votre app va pouvoir rentrer dans une web part zone. OK. Ici, je vais avoir du contenu. Donc on va faire ah mais tiens, je fais une faute d'orthographe exprès. Comme ça vous verrez que c'est la vraie. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici dans le content un peu de CSS. Donc le fond sera bleu, l'écriture sera blanche. OK, vous avez vu que côté design, j'avais des lacunes. Ici, mon icône, et ici, mon script app.js, qui va faire exactement pareil que d'habitude, c'est Hello, personne connectée. Très bien. Je fais tourner mon projet, je suis dans le cloud. D'accord ? Donc, il me package, il me déploie, il me launch. Allez, mon petit. OK, donc il me lance une nouvelle fenêtre. OK, je suis donc Hello Laurent Vallon, description de notre app. Parfait. Je vais dans le développeur site. Je vais ici dans le contenu du site et j'ai mon appli Tech Days qui est là. OK, très bien. Super. Je vais fermer et je vais lui dire ouvre-la moi dans Visual Studio. Donc vous voyez bien les limites ici de Napa. Ajouter un custom UI, ajouter un module, ajouter une page HTML, niet. D'accord ? Donc pour développer un peu mieux, je vais l'ouvrir dans Visual Studio. OK. Yes. Voilà, donc je me retrouve dans Visual Studio. Au niveau des pages, j'ai toujours ma client web page, web part page. Donc là, il me demande de m'authentifier. Voilà, hop. Voilà, il m'ouvre ma page avec ma faute d'orthographe volontaire, donc il n'y a pas de souci. Ici, si je voulais ajouter du code, des modules, etc., et faire un start, j'irai sur l'URL Incentia 474, SharePoint, com, site, TechDays, bref, sur mon Office 365. D'accord ? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier mon app. Je vous en ai parlé dans les diapos. Ici, alors avant, ouais, je voulais faire un truc. Soit je change le site URL ici et je mets l'URL de mon SharePoint en local, je fais start, il le déploie tout seul, de façon transparente, comme il faut, très bien, pas drôle. Donc on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc là, je vais publier mon app. Et regardez, chose intéressante, j'étais dans le cloud, donc j'étais en auto-hosted. Quand je la publie, il me dit, attends, si tu la publies, ton app, elle va devenir SharePoint hosted. D'accord ? Et pas de choix. OK ? Donc, je vais ouvrir le répertoire dans lequel j'ai créé ton fichier compilé, en fait. Très bien, vas-y. OK. Donc ici, je me retrouve dans mes projets, etc. Je vais copier l'URL parce que je vais en avoir besoin dans peu de temps. OK. Je vais dans ma centrale administration. Et au niveau des apps, j'ai mon catalogue d'apps. D'accord ? C'est là où vont être gérées les apps et sur laquelle je vais pouvoir faire du droit de façon fine. OK, voici mon app. Donc c'est une autre collection, je vous l'ai montré au début. Hein, mon serveur, site, TD catalogue, vous vous souvenez, hein, je vous l'ai montré au début. C'est une side collection de mon serveur. OK, donc je vais faire une nouvelle app pour SharePoint, nouvel item. Et en fait, ici, quand je vais faire browse, je vais lui coller l'URL du fichier compilé de tout à l'heure. Donc c'est celui-là, OK. OK. Donc, quand je vais vouloir la déployer, il me dit elle va s'appeler Tech Days. OK, le titre est là. Les metadata en English, etc. Tu peux mettre une description courte, une description lente, l'icône, l'URL de l'icône, la catégorie, le nom du publicateur, l'URL du support, les images, blablabla, tout va bien. Et ce qui est important, c'est ici, c'est que Quand tu l'auras déployée, elle sera visible par les utilisateurs et ils pourront l'ajouter à leur site. Ça, c'est cool. OK ? Ou alors, on la présente sous forme de feature et auquel cas, il faudra l'activer sur chacun des sites ou au niveau de la collection de sites, comme on veut. OK, je fais save. Voilà, mon app, elle est là. Très bien. Je vais aller dans le contenu de mon site. OK. Et je vais demander à ajouter une app. La voilà. Elle s'appelle TechDays. Je clique dessus, je l'autorise. OK. Du coup, elle est là. Elle vient d'apparaître. Descriptif de notre app, système account, OK. Chose qui est sympa aussi, c'est au niveau des trois petits points, je vous parlais au début d'ajout, suppression facile d'app. Ben ici, j'ai un coup sur remove et puis elle n'y est plus. Hein. Ici, je vais aller dans cette page-là, l'éditer, la page. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs web part zones. Ici, j'en ai une. Et je vais faire un insert. Insert web part, insert app part. Donc là, moi, je veux une app part. Elle est là, notre app TechDays. Je l'ajoute. Hello TechDays avec la faute d'orthographe, s'il vous plaît. OK. Et je peux sauver. OK. Ça marche. Donc là, avec la démonstration NAPA, on a vu de l'auto-hosted qui, quand on publie, se transforme en SharePoint hosted. Attention, ça aussi. On a vu NAPA, on a vu Visual Studio et on a vu une app part. OK ? Très bien, il me reste quelques minutes pour une conclusion. Vous avez vu, sans graphisme, l'utilité des apps. Donc en fait, on peut aller chercher de l'info dans notre serveur SharePoint et puis l'envoyer très loin. L'idée, c'est d'étendre les fonctionnalités de SharePoint. On va ajouter des fonctionnalités qui aujourd'hui étaient toutes Renaz serveur, d'accord ? Ou alors faites rapidos dans le SharePoint Designer avec du Java. Il y a un grand potentiel. Vous avez vu que l'utilisation pour le end user, elle est super facile parce que vous avez une page descriptive. Et puis il l'ajoute à sa page et il s'en sert tout simplement. D'accord ? Au niveau retour d'expérience, puisque bon, la technologie est toute neuve, le nombre de techno, de langage, de méthodes à apprendre est assez important. Il faut toujours avoir en tête le contexte dans lequel on se trouve. Je suis dans le contexte de l'app, je suis arrivé sur mon serveur, je suis dans du localhost, mais je dois passer par l'app pour atteindre le serveur. Vous voyez, c'était... Voilà, il fallait appréhender et toujours avoir en tête l'endroit où on se trouve. Par contre, le web est bien documenté. MSDN a mis la sauce sur tout ce qui est développement d'app et vous avez de plus en plus de posts là-dessus. L'avenir, ben en fait, c'est ici que le terme user experience prend son sens dans SharePoint. Jusqu'à présent, on avait une interface web et puis on jouait avec, mais bon... À part le côté infopass où on avait quelque chose un peu sur le client, sinon c'était tout sur le serveur. Là, on commence à avoir un peu de profondeur. On a d'énormes possibilités. Aujourd'hui, vous les avez pas bien vues, mais ça, vous allez avoir des posts et des vidéos qui vont vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Le slogan, attention, SharePoint 2013, tout est app. Oui, mais les solutions fermes ne sont pas dépréciées. Les sandbox solutions sont dépréciées, de ce que dit Microsoft, mais elles sont toujours possibles. Les farm solutions sont toujours acceptées. Donc il faut laisser à César ce qui est à César. Je veux faire une web part bien costaud qui me fait du code C#. Ben, je peux toujours le faire. Ok ? C'est pas parce qu'il y a une nouveauté qu'il faut absolument passer par cette nouveauté. Ok ? Si vous êtes à l'aise, si vous avez déjà du code... ou si vous savez comment faire en C#, mais vous ne savez pas comment faire en HTML JavaScript, OK, faites-le en C#. D'accord ? Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le stand Incentia pour toute demande, distribution de cartes de visite, ce que vous voulez. La bise, les gâteaux sont juste en face, donc c'est assez sympa. Je vous remercie. S'il y a des questions, je vous propose de se retrouver au stand et je suis à votre disposition dans 3 minutes.